Donc la lecture d'aujourd'hui se trouve dans Jean 2, du verset 13 au verset 25, page 688 de nos Bibles. Jean 2, 13, 25, page 688. La Pâque juive était proche, et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, ainsi que les changeurs de monnaie installés dans le temple. Alors il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa leurs tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, « Enlevez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de commerce. » Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, « Le zèle de ta maison me dévore. » Les Juifs prirent la parole et lui dirent, « Quel signe nous montres-tu pour agir de cette manière ?» Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. » Les Juifs dirent, « Il a fallu 46 ans pour construire ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèverais ?» Cependant, lui parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant que Jésus était à Jérusalem, lors de la fête de la Pâque, beaucoup crurent en lui en voyant les signes miraculeux qu'il faisait. Mais Jésus n'avait pas confiance en eux, parce qu'il les connaissait tous. Il n'avait pas besoin qu'on le renseigne sur les hommes, car il savait lui-même ce qui est dans l'homme.
Super. Et pourquoi pas garder Jean 2 ouvert devant vous. Au final, qu'on soit blanc, black ou beurre, la religion, c'était juste un hobby bizarre. Un truc du dimanche matin pour la plupart, qui nous faisait un peu froid dans le dos parce que ça ressemblait quand même à un genre de secte. Et franchement, quand on les voyait sur le parvis de l'église en rentrant de la boulangerie, ils ne faisaient pas envie. Ils étaient tous gris, tous fermés, tous coincés dans leurs croyances irrationnelles et leurs principes étriqués. Mais on les plaignait plus qu'autre chose. Avec tout ça, ils allaient rater téléfoot. Nos parents ne nous démentaient pas. Ceux qui avaient été élevés dans la religion nous répétaient combien nous étions chanceux de nous construire en esprit libre, guidés par des enseignants soucieux de former des citoyens éclairés. Voilà l'extrait d'une chronique parue dans le journal Libération il y a quelques semaines. Qu'est-ce que vous en pensez? D'accord? Pas d'accord? Vous savez pas trop? Une chose est sûre, c'est qu'on a là une présentation hostile de la religion et de la foi chrétienne en particulier. L'auteur cherche clairement à la tourner en dérision. Alors pourquoi cette hostilité? D'où vient-elle? D'une conviction que la foi est irrationnelle? De l'idée selon laquelle la foi est sans pertinence pour la vie et même néfaste pour les personnes éclairées que nous sommes? De l'ignorance de ce que croient vraiment les chrétiens? Il y a probablement un peu de tout ça. Peut-être que vous êtes là aujourd'hui parce que vous avez voulu en savoir un peu plus sur Jésus, Dieu, la Bible. Et si c'est le cas, c'est super. Ces réunions existent pour encourager la découverte, la réflexion, le débat. On veut donner l'occasion à chacun de découvrir qui est vraiment Jésus-Christ, la personne au cœur de la foi chrétienne, et de poser ses questions. Peut-être que vous êtes là aujourd'hui simplement parce qu'on vous a dit qu'il y aurait un bon repas français. C'est une très bonne raison aussi, surtout quand on a assez bavé de la bouffe anglaise. Quelle que soit la raison de votre présence aujourd'hui, j'aimerais vous demander, quel est d'après vous le plus grand obstacle qui empêche les gens d'accepter la foi chrétienne? Quel est le plus grand obstacle qui vous empêche peut-être d'accepter la foi chrétienne? qu'est-ce qu'il vous faudrait pour pouvoir dire « Oui, je crois en Jésus, je crois qu'il est celui qui prétend être. » Quel est le fond du problème? L'impression d'un manque de preuves, l'impression d'un manque de pertinence, les chrétiens eux-mêmes. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous soumettre une autre possibilité. Et c'est une possibilité qui a de quoi nous mettre mal à l'aise, mais il me semble qu'elle ressort du texte que Atalia vient de lire. Et si le vrai obstacle, c'était nous? Et si le vrai problème n'était pas une histoire de preuves ou de pertinence, mais plutôt notre hostilité fondamentale à notre Créateur? Le fait qu'on n'a tout simplement pas envie de le prendre en compte dans notre vie et de l'écouter. Le passage d'aujourd'hui nous montre à quel point on n'aime pas être mis à nu. Il montre comment Jésus-Christ met le doigt sur nos défauts. Et ça nous dérange tellement qu'on juge qu'il vaut mieux l'écarter, le supprimer, plutôt que d'accepter son diagnostic. Ce passage montre que ce n'est pas qu'on ne peut pas croire en Jésus ou que ce qu'il dit est sans pertinence pour nous. C'est plutôt qu'on ne veut pas croire en lui. On ne veut pas accepter son diagnostic sur l'état de notre cœur. C'est en tout cas la possibilité à laquelle on va réfléchir ensemble. Alors depuis le début de l'année, on parcourt ensemble l'évangile de Jean. C'est un livre qui fait une affirmation énorme. Une affirmation que si elle est vraie et si on la comprend, change tout. Il nous dit que Dieu, qui a créé l'univers, est devenu un homme en chair et en os. Un homme qu'on peut connaître, Jésus. En Jésus, Dieu s'est mis à notre portée. Il y a 3 semaines, si vous étiez là, James Healy Hutchinson nous a parlé du jour où Dieu a été invité à un mariage. Et Jésus, Dieu en chair et en os, c'est le genre d'invité que tout le monde aimerait avoir à son mariage. J'imagine qu'on a tous assisté à des mariages, mais ça m'étonnerait beaucoup que quelqu'un ici ait été à un mariage où un des invités a transformé 600 litres d'eau en 600 litres de Château Margaux, comme Jésus l'a fait ce jour-là. Et James nous a montré comment, par ce miracle, Jésus a prouvé son identité, en quelque sorte. Prouvé qu'il était celui que le peuple juif attendait depuis des siècles, celui qui devait instaurer une nouvelle ère de liberté et de paix, celui qui devait préparer un nouveau monde de joie et d'abondance. C'est comme si Jésus disait « Vous voulez savoir qui je suis ? Prenons un verre ensemble, goûtez ça et vous verrez qui je suis. » Alors quand Jésus monte ensuite à la capitale, Jérusalem, comment est-ce qu'on s'attend à ce qu'il se comporte? Est-ce qu'il va faire encore plus de Château Margaux, sortir un millésime encore supérieur? Parce que s'il veut vraiment épater la galerie, c'est à la capitale qu'il faut aller. Ce qui nous amène à notre premier point, Jésus, l'homme qui dérange. Alors je me demande de quelle manière on s'attendrait à ce que Jésus se comporte si on avait été à ce mariage et qu'il nous rejoignait maintenant pour l'exposé déjeuner. Est-ce qu'il referait le même miracle qu'il avait fait au mariage, transformer notre eau Thames Water, pas franchement très, très bonne, en Château Pétrus? Eh bien, imaginez notre réaction si Jésus se mettait à renverser les tables et à lancer les saladiers par terre et à jeter le comté à la poubelle et à déverser le café dans les toilettes. Je pense que Caroline, si elle était là, ne serait pas très contente. Mike Burden, la personne qui s'occupe de l'entretien de ce bâtiment, lui demanderait peut-être de s'expliquer. On serait tous choqués, évidemment. Mais maintenant, essayez d'imaginer la même scène, pas dans cette jolie église du XVIe siècle, un dimanche après-midi en février, mais dans le lieu considéré comme la demeure de Dieu sur terre, c'est-à-dire le temple juif à Jérusalem, au moment de la plus importantes fêtes religieuses de l'époque, la Pâque. Est-ce que vous imaginez le scandale? Est-ce que vous imaginez à quel point les gens seraient choqués? Mais c'est exactement ce qui se passe dans notre passage. Jésus va à la capitale de la Judée, Jérusalem, pour la fête de la Pâque. Et là, verset 14, il trouve les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, ainsi que les changeurs de monnaie installés dans le temple. Il fait un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables, leurs tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, « Enlevez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de commerce. » Ce n'est pas le Jésus tout doux, tout gentil qu'on imagine parfois. C'est un Jésus offusqué, zélé, un Jésus qui s'indigne, un Jésus qui n'a pas peur de déplacer un marché aux bestiaux à l'aide d'un fouet improvisé. Un Jésus rentre dedans. Si vous vivez à Londres depuis plus d'environ 5 minutes, vous aurez sûrement remarqué que les Londoniens ne sont pas du genre à aimer faire des bagues. Le service est mauvais dans un restaurant, on ne se plaint surtout pas, mais on n'en revient plus jamais. Quelqu'un met sa musique trop fort dans le tube, on ne dit rien, on se cache derrière son journal. Quoi de plus effrayant que de parler à une autre personne dans les transports? Eh bien, ça prouve que Jésus n'était pas anglais. Parce que lui n'a pas peur de vider le bâtiment le plus sacré du monde à l'époque, s'il le juge nécessaire. Alors, qu'est-ce qui le met tant en colère? Pourquoi cette réaction si radicale? Parce qu'après tout, il était permis de vendre des animaux pour les sacrifices faits dans le temple. Ce n'était pas là le problème. Et rien n'indique que les vendeurs escroquaient les gens ou qu'ils agissaient de manière frauduleuse. Non, je crois que Jésus lui-même nous donne la réponse au verset 16 de notre passage. Quand il dit, « Ne faites pas de la maison de mon père une maison de commerce. » Autrement dit, « Ne transformez pas la maison de Dieu en une branche de Franprix. » Alors, qui est déjà allé à Buckingham Palace? Un certain nombre de personnes. Je m'attendais à plus, en fait, mais bon, c'est pas grave. Pourquoi est-ce que des foules de touristes vont voir Buckingham Palace tous les jours? Est-ce que c'est parce que c'est un bâtiment spécialement beau? Bah, ça va, mais il y en a des mieux. Est-ce que c'est parce que c'est un bâtiment, parce que les environs sont spécialement sympas? Pas vraiment, il y a un rond-point devant. Non, les touristes vont voir Buckingham Palace parce que c'est là que la reine habite. Et si vous êtes comme moi, peut-être que vous avez essayé de regarder par la fenêtre pour voir si elle est là. Et même quand elle n'est pas là, c'est-à-dire la plupart du temps, c'est le bâtiment qui symbolise la présence de la monarchie anglaise au milieu du peuple britannique. Eh bien, le temple à Jérusalem, c'était un peu pareil. Il symbolise la présence de Dieu parmi son peuple. Pour le rencontrer, il fallait aller au temple. Pour l'adorer, il fallait aller au temple. Pour se faire pardonner ses péchés, il fallait aller au temple. Le temple était au cœur de la relation entre Dieu et le peuple juif. Dieu le leur avait donné pour le rencontrer. Lui, le créateur de toutes choses, lui, le roi. Mais dans ce passage, on a l'impression que les gens s'en fichaient pas mal, qu'ils étaient indifférents à cette relation qu'ils avaient avec Dieu. Alors, levez la main si vous avez déjà utilisé au moins une fois Airbnb. Quelques personnes. Alors, Airbnb, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un site internet qui permet de mettre en location son appartement ou sa maison pendant de courtes durées pour des touristes ou des gens qui veulent passer un petit séjour quelque part. Donc, imaginons que vous preniez une location Airbnb dans une ville que vous avez envie de découvrir, New York, disons. Vous achetez vos billets d'avion, vous faites vos bagages, vous avez étudié les guides touristiques, vous êtes prêt à passer un bon séjour. Mais quand vous arrivez, vous découvrez un appartement complètement insalubre. De la nourriture pourrissante dans la cuisine, des draps sales sur le lit, le chauffage ne fonctionne pas, il n'y a pas d'eau, le propriétaire a laissé son chien dans l'appartement. Peut-être que ça évoque des traumatismes réels. Quelle conclusion vous tirez-vous? Eh bien, que la personne s'en fiche pas mal de vous. Clairement, la personne n'accorde aucune valeur à la possibilité d'une relation avec vous. Et si jamais vous espériez faire un peu connaissance, devenir ami avec un vrai New-Yorkais, ben là, c'est mort. Ici, dans Jean, c'est un peu la même chose, mais en beaucoup plus grave. Ces gens n'accordent aucune valeur à la relation que Dieu leur offre avec lui. C'est un affront terrible. C'est le Créateur de l'univers lui-même qu'ils ignorent, celui qui leur a offert une relation avec lui et qui prend soin d'eux. Et c'est cet affront que Jésus révèle au grand jour. Imaginons un des vendeurs du temple qui vient d'être chassé du temple, interrogé sur BFM TV après l'intervention de Jésus. « Mais qu'est-ce qu'il a celui-là? Quel est son problème? Il ne pouvait pas nous laisser tranquilles ?» Et la réponse, c'est non. Jésus ne peut pas les laisser tranquilles. Il ne peut pas laisser les gens mépriser Dieu, faire comme s'il n'existait pas, fouler aux pieds le lieu de rencontre qu'il leur a offert. Vous voyez, le problème avec Jésus n'est pas qu'il manque de pertinence pour nous. Le problème, c'est qu'il a trop de pertinence pour nous. Il met le doigt sur nos zones d'ombre. Comme une lumière dans un lieu obscur, Jésus vient révéler au grand jour notre indifférence et notre rejet à l'égard de Dieu. Et nous n'aimons pas ça. Je fais de temps en temps de la course à pied, comme Yann en a fait ce matin, pour ceux qui se demandaient pourquoi il était tout transparent tout à l'heure. Et quand je cours tout seul, je peux parfois me convaincre que je suis un relativement bon coureur, au-dessus de la moyenne, enfin, dans la moyenne. Mais parfois, je cours avec un ami qui est un excellent coureur. Il court tous les jours, il part s'entraîner en Éthiopie, il a gagné des courses. Et quand je cours avec lui, toutes mes insuffisances sont dévoilées. Je regrette le deuxième brownie que j'ai mangé la veille. Je regrette de ne pas assez m'entraîner. Et à ce moment-là, ma tentation naturelle, c'est de me dire, bon, la course à pied, c'est pas très important de toute façon. Pourquoi est-ce qu'il peut pas juste me laisser tranquille, l'autre? Jésus arrive avec une approche rentre-dedans. Il met en lumière nos insuffisances. Qui est Dieu pour nous? A-t-il une place dans nos vies? A-t-il la place qu'il mérite? Cherchons-nous constamment à lui plaire en pensée, en parole et en acte? Et la réponse est évidemment non. Dieu n'a pas dans nos vies la place qu'il devrait avoir. Dieu n'a pas dans nos vies la place qu'il mérite. Et Jésus est celui qui met ça en évidence. Et nous n'aimons pas ça. Ça nous dérange profondément. En fait, dans notre passage, ça dérange tellement les responsables du temple qu'ils décident de le tuer, de se débarrasser de lui. Et c'est mon deuxième point. Jésus-Christ, l'homme à abattre. Revenons à la scène dans le temple. Essayons de nous la représenter. Des tables renversées, des pigeons qui volent partout, des gens en colère parce que leur chiffre d'affaires pour la journée vient d'être gâché. Et au milieu de tout ça, Jésus, transpirant et essoufflé sans doute. Quand les responsables du temple arrivent, quelle est la question logique à poser? Eh bien, pourquoi? Pourquoi as-tu fait cela? Pourquoi as-tu créé le bazar, scandalisé des centaines de personnes? Explique-toi! Mais ce n'est pas la question qu'il pose. Regardez le verset 18. Verset 18. Les Juifs, donc dans le langage de Jean, les responsables religieux de l'époque, les Juifs prirent la parole et lui dirent « Quel signe nous montres-tu pour agir de cette manière ?» Il ne demande pas « Pourquoi as-tu fait cela ?» Mais « Qu'est-ce qui te permet de faire cela ? Prouve-nous ton autorité. Qui te permet d'agir ainsi ?» C'est comme s'il savait qu'il n'utilise pas le temple comme il devrait. Ce qu'ils veulent savoir, c'est pourquoi Jésus se croit permis de faire le nettoyage. Est-ce que vous sentez la tension monter d'un cran? Mais pour qui te prends-tu? Tu ne peux pas nous laisser tranquilles. Et c'est là que Jésus répond avec du langage de guerre. Verset 19. Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. » Les Juifs dirent, « Il a fallu 46 ans pour construire ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèverais ?» Cependant, lui parlait du temple de son corps. Alors, qu'est-ce que tout ça veut dire? Je vous propose de revenir une page en arrière à Jean chapitre 1, verset 14. Si vous avez fermé votre Bible, c'est à la page 687, chapitre 1, verset 14. Et ici, au tout début de son livre, Jean nous dresse un portrait de Jésus comme nul autre. Lisons le verset 14. « La parole s'est faite homme, elle a habité parmi nous. » Alors cette expression « la parole », c'est un nom que Jean utilise pour parler de Jésus. Le mot sur lequel j'aimerais vraiment attirer votre attention, c'est le mot « habité ». « Elle a habité parmi nous ». Alors Jean écrivait en grec, et si on regarde le grec, le mot traduit « habiter », c'est en fait le mot « tabernacle ». J'espère que je ne vais pas offenser nos amis québécois. « Tabernacle », la parole s'est faite homme, elle a tabernaclé parmi nous. Qu'est-ce que le tabernacle? Eh bien, c'était une tente considérée comme les Juifs, par les Juifs comme la demeure de Dieu sur terre, avant qu'ils construisent le temple à Jérusalem. C'est la première version du temple, si on veut. Et donc, quand Jean dit que la parole s'est faite homme et qu'elle a tabernaclé parmi nous, c'est une manière de dire que Jésus, c'est Dieu qui vient habiter parmi nous, faire sa tente parmi nous. Le temple à Jérusalem symbolisait seulement la présence de Dieu sur terre. Mais en Jésus, Dieu est vraiment venu sur terre, parmi les hommes. Le temple était une image. Jésus, c'était la réalité. Dieu parmi nous. Alors revenons au passage d'aujourd'hui. Le responsable juif demande, « Qui t'a donné l'autorisation de faire le nettoyage dans notre temple ?» Et avec une réponse volontairement ambiguë, Jésus dit grosso modo ceci. « De la même manière que vous déshonorez le temple, symbole de la présence de Dieu sur terre. Moi qui suis vraiment Dieu sur terre, vous allez me tuer. Détruisez ce temple, mon corps, et en 3 jours, je le relèverai. Vous avez déjà souillé le symbole, et maintenant vous allez rejeter la réalité. Vous allez me tuer. » Ailleurs, dans son livre, Jean écrit à propos de Jésus que la lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leur manière d'agir était mauvaise. On n'aime pas être mis à nu. On n'a pas envie de faire face au diagnostic de notre cœur. La lumière vient dans le monde, ça nous dérange, on estime qu'il faut l'éteindre. Notre cœur, Jésus le connaît. Regarde les versets 23 à 25. Verset 23. « Pendant que Jésus était à Jérusalem, lors de la fête de la Pâque, beaucoup crurent en lui en voyant les signes miraculeux qu'il faisait. Mais Jésus n'avait pas confiance en eux, parce qu'il les connaissait tous. Il n'avait pas besoin qu'on leur enseigne sur les hommes, car il savait lui-même ce qui est dans l'homme. » Jésus connaît le public à qui il a affaire. Il sait que les mêmes mains qui l'applaudissent prendront bientôt des pierres pour le lapider. Il sait que dès que la lumière commence à briller un peu trop fort, à révéler un peu trop leur tiédeur vis-à-vis de Dieu, les gens vont se retourner contre lui, car ils ne supportent pas d'être mis à nu. Aujourd'hui, chaque fois que je vois mon ami le bon coureur, je fais tout pour éviter qu'il me propose d'aller faire un tour dans le parc, parce que je n'ai pas envie de subir l'humiliation. Je fais en sorte qu'on se voit à un moment de la journée où c'est pas pratique de sortir, où je fais semblant d'être blessé au genou. Je préfère écarter toute possibilité d'embarras plutôt que de révéler mes défauts. Et c'est la même chose avec Jésus. On préfère l'écarter plutôt que de se soumettre à son diagnostic. On préfère le supprimer plutôt que d'accepter son analyse. Même si ce serait mieux pour nous de le faire. Voici donc le fond du problème. Pas un manque de pertinence, pas un manque de preuves. Le problème, c'est nous. C'est qu'on n'est pas neutre face à Jésus. Notre tendance naturelle est d'adopter la politique de l'autruche. Fermer les yeux, faire comme s'il n'était pas là, plutôt que d'accepter ce qu'il aurait à nous dire. Mon frère n'est pas chrétien. Et je me souviens d'une conversation avec lui il n'y a pas longtemps où on a discuté de questions liées à la rationalité de la foi chrétienne. Est-ce que les preuves sont là? Est-ce qu'on peut faire confiance à la Bible? Est-ce que Jésus est vraiment mort? Est-ce qu'il est vraiment ressuscité? Et à un moment donné dans la conversation, il a fait une remarque révélatrice. Il a dit ceci. Même si tout ça est vrai, je n'y croirai jamais parce que je ne suis pas d'accord avec la position de la Bible sur certaines questions éthiques. Autrement dit, que ce soit vrai ou pas, peu importe, je ne veux pas que ce soit vrai. Ce serait trop dérangeant pour moi. Et j'ai trouvé ça très honnête, mais très triste en même temps. Car Jésus dit qu'il n'est pas venu pour nous gâcher la vie, mais pour nous la donner en abondance. Et vous, où vous situez-vous? Est-ce que c'est que vous ne pouvez pas croire? Ou est-ce que c'est que vous ne voulez pas croire? C'est possible que vous ayez encore beaucoup de questions. Peut-être que vous vous demandez pourquoi est-ce que Jésus veut révéler nos défauts? Pourquoi est-ce que nous voudrions croire en lui? Quel serait l'intérêt? Est-ce qu'il y a de l'espoir dans tout ça? Et ce sont des questions tout à fait légitimes dont vous aurez l'occasion de discuter autour de vos tables et auxquelles nous pourrons continuer de réfléchir lors de nos prochaines rencontres. Mais il y a une autre option que l'indifférence et le rejet. C'est de venir humblement écouter, tout simplement. Laissez Jésus se présenter à nous en ses propres mots, sur ses propres termes. Pourquoi pas prendre un de ces évangiles bleus, évangile de Jean, que vous avez sur vos tables, pour le lire. Proposer à quelqu'un assis à votre table de prendre un café avec vous pour en discuter. Qu'est-ce qui vous retient? Vous trouverez sur les feuilles que vous avez devant vous des questions de discussion. Donc nous allons prendre peut-être jusqu'à 2 heures et quart pour un temps de discussion autour de vos tables. N'hésitez pas à aller vous resservir d'abord et puis nous aurons l'occasion de discuter ensemble. À tout à l'heure.